normalement, c'est sans Sir Cédric qui devrait pas tarder à nous rejoindre. On l'espère, en tout cas, pour ses fans, surtout.
Et puis, bon, on va donc parler mystère, ésotérisme autour du thriller et de cette passion thriller. Alors, David Escar, vous m'avez déjà dit, mais chez moi, il n'y a pas d'ésotérisme. Non, mais il y a du mystère, quand même, dans ce que vous faites.
Ah, donc,
Ne serait-ce que dans Bleiberg, on a un personnage dont on ne sait quasiment rien pendant très longtemps. On ne sait même pas si c'est un gentil, un méchant. Et puis, dans Les Vestiges de l'Aube, on a quand même le personnage du vampire qui, au départ, même si nous, lecteurs, on sait qui il est, on sait quel est son état, par rapport à sa relation avec le policier, il y a quand même du mystère là-dessus aussi.
On attaque fort, oui, effectivement.
Il fallait pas me chercher.
Il y a nécessairement du mystère, mais bon, c'est vrai que la partie ésotérique aurait pu exister sur le projet Bleiberg à partir du moment où les théories et les thèses nazies ont été souvent liées entre l'arianisme, effectivement, et l'ésotérisme, et tout ce qui a tourné autour de la non-herbeux, des recherches sur Shambhala, les expéditions au Tibet, dans le Grand Nord.
Et revoilà la sous-préfète. Vous t'attendez pas du tout.
Encore à l'heure, hein. Décidément. Non, non, mais
je me comprends, excuse.
Mais du coup, oui, nécessairement, à partir du moment où on s'embarque dans le thriller, forcément, le mystère à Upark est capital, quoi.
Bon, on verra évidemment comment justement on travaille sur ce mystère, comment on l'entretient, parce que c'est aussi ça qui sous-tend le thriller. Mais on va parler aussi avec Henri Levenhooker. Je vois qu'il y a le rasoir de Cam, mais moi j'avais envie de remonter encore un petit peu plus loin, parce qu'il y a eu un premier thriller qui s'appelait Le Testament des siècles, c'est ça, de mémoire. Moi, c'est un livre que j'aime bien. On en a déjà discuté ensemble, en plus, à plusieurs reprises. Il a eu un destin un petit peu particulier, celui-là. Est-ce que tu peux nous raconter, justement, ce qui s'est passé autour de ce Testament des siècles?
Tu veux dire par rapport à
un certain Dan
C'est un roman que j'ai écrit entre 2001 et 2002, donc il y a quelques années, la plupart d'entre vous n'étaient pas nés, qui raconte l'histoire d'un Américain qui vient à Paris après la mort de son père et qui découvre que Léonard de Vinci a crypté dans un de ses tableaux un message du Christ et qui se retrouve poursuivi par l'Opus Dei. Voilà. 6 mois plus tard, sortait un roman. J'étais à Londres et je rentre dans une librairie de Londres qui s'appelle. Ça n'a pas d'importance d'ailleurs, bon, le nom de la librairie. Et je vois une pile de livres avec marqué Da Vinci Code. Et je dis, oh putain, ça aurait fait un super titre pour mon livre. Je suis trop bête, j'aurais dû y penser. Et je retourne le livre et je regarde le résumé et je vois marqué, c'est l'histoire d'un Américain qui vient à Paris et qui découvre que dans un tableau de Léonard de Vinci, quelqu'un a crypté un message du Christ et qui se retrouve poursuivi par l'Opus Dei et qui en outre tombe amoureux d'une femme qui s'appelle Sophie. Alors que dans mon roman, le héros tombe amoureux d'une femme qui s'appelle Sophie, donc ça n'a rien à voir. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, après avoir fait quelques recherches, nous en sommes arrivés à la conclusion avec Flammarion que c'était une coïncidence. Troublante certes, mais une coïncidence comme il en arrive parfois. Et finalement, c'est intéressant parce qu'on pourrait avoir un débat là-dessus sur la concomitance des inspirations, enfin voilà, des auteurs. Je pense qu'on voit les mêmes films, on lit les mêmes livres, on suit la même actualité et du coup on se retrouve à faire des choses qui se ressemblent. Ce qui est très très drôle, c'est que c'est pas drôle pour mon compte en banque, mais lui en a vendu quelques millions et moi j'en ai vendu 100 000, donc évidemment ça c'est pas drôle. Mais ce qui est amusant, c'est que quand j'ai écrit le roman, ce qui fait le succès d'un roman comme ce Dan Brown, à mon avis, est exactement la même chose, le même phénomène qui va faire le succès d'un roman de Bernard Werber. C'est-à-dire que c'est des gens qui savent comment une idée va pouvoir toucher le plus grand nombre et quels sacrifices on peut faire dans la présentation d'une idée pour qu'elle touche le plus grand nombre. C'est des gens qui ont cet instinct-là, un instinct que Bernard Werber a, et on voit avec quel succès. Et ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai écrit Le Testament des siècles, la première personne à qui je l'ai fait lire, c'était Bernard Werber, qui est un ami très proche à qui je fais lire tous mes romans, et il me fait lire tous ses romans, et on se corrige l'un l'autre, s'insulte l'un l'autre, etc. Et quand j'ai écrit le Testament des siècles, le tableau dans lequel le message du Christ était codé n'était pas un tableau de Léonard de Vinci, mais un tableau d'Albrecht Dürer. Et Bernard lit le livre et me dit « Henri, ton livre, c'est génial. Le seul problème, c'est qu'il faut que tu changes juste un truc. Il ne faut pas que ce soit un tableau de Dürer, il faut que ce soit un tableau de Léonard de Vinci. Parce que deux lecteurs sur trois ne savent pas qui est Dürer, alors que tous savent qui est Léonard de Vinci. Et donc, si tu veux... ton message passe auprès du plus grand nombre, tu changes ça et tu mets Léonard de Vinci à la place de Dürer. » Donc moi j'ai dit oui, d'accord Bernard, j'ai changé et j'ai mis ça. Ce qui est très drôle, c'est qu'il a raison, évidemment. Et que Dan Brown n'a pas eu besoin de l'aide de Bernard Werber pour se dire « Tiens, il vaut mieux que j'utilise Léonard de Vinci plutôt qu'Albrecht Dürer. » Avec le recul, évidemment, sachant ce qui s'est passé, j'en veux énormément à Bernard, j'aurais préféré garder Albrecht Dürer pour que les journalistes 9 ans plus tard, ça arrête de me parler de ce connard de Dan Brown, dont j'aimerais bien qu'on cesse de parler. Car figurez-vous que mon amour pour le thriller ésotérique remonte au minimum à Umberto Eco et à Arturo Pérez Reverte, qui ont écrit des romans fascinants 5, 15, 20 ou 30 ans avant Dan Brown et moi, et au plus large, Alexandre Dumas, qui avait écrit lui-même l'un des plus beaux thrillers ésotériques de l'histoire de la littérature, et qui, fort heureusement, me va plus directement au cœur que Monsieur B. Voilà.
C'est un peu là où je voulais en venir quand même aussi. Dites donc. Un peu de silence dans les rangs. Cédric, l'ésotérisme et le mystère dans tes romans, ça va avec le fantastique, forcément, c'est quelque chose qui s'entremêle, qui naît naturellement de ce que tu cherches à montrer. Je sais que tu n'aimes pas quand on t'étiquette, alors je fais attention à ce que je dis, mais c'est quand même, la partie ésotérique, elle est quand même importante, elle est remarquable, entre guillemets, dans ce que tu fais.
Alors si elle l'est, je ne m'en rends pas compte vraiment, c'est pour ça que c'est toujours amusant pour moi d'entendre ce genre de choses, parce que je ne m'en rends vraiment pas compte quand j'écris. Moi j'essaie de raconter des histoires qui soient le plus passionnant possible. Je pense qu'au niveau des racines littéraires, on a un peu tous les mêmes, enfin, je ne sais pas ce que vous avez dit tous avant que j'arrive. Par rapport au roman d'aventure, non mais c'est vrai, au grand classique du roman d'aventure déjà, qui ont je pense moi nourri mes lectures d'ado, en passant après par les Paul Moran et moi ce que j'aime bien dans la littérature, c'est le divertissement, les grandes aventures, et c'est vrai que je trouve intéressant de placer dans mes propres histoires des bizarreries au quotidien, une espèce d'étrangeté qu'on a tous ressenti, cette illusion, parce qu'à mon avis c'est vraiment une illusion de monde parallèle ou de force qui nous dépasse ou de certains éléments dont on ne possède pas les clés dans notre propre existence et qui fait que ça nourrit tout ça, se nourrit mon imagination et on retrouve dans mes histoires et dans mes scénarios donc des éléments qu'on peut qualifier oui, d'ésotériques. Mais j'ai l'impression que on a tous des superstitions, on est tous emplis, outre notre culture judéo-chrétienne, sur laquelle on a quand même d'ailleurs notre civilisation, et qui est justement pétrie de superstitions, c'est pas des superstitions, parce que c'est un blasphème, mais disons de réseaux, d'un inconscient général qui nous incite à penser que derrière la surface des choses, il y a des choses qu'on ne voit pas, ou que des gens manipulent nos existences, que ce soit des forces supérieures ou les organisations ou religieuses ou sectaires. Et c'est vrai que, à petite dose, j'aime bien intégrer ce genre d'éléments dans mes romans, dans le but de les rendre plus passionnants, tout bêtement. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais il ne faut pas calculer au départ.
C'est amusant, si je peux me permettre, j'ai essayé de ne pas trop monopoliser la parole, mais il y a un phénomène d'actualité là aujourd'hui qui illustre parfaitement ce que tu viens de dire. Je pense qu'on a tous en nous une fascination pour tout ce qui va pouvoir expliquer l'inexplicable, ce qui nous paraît à nous inexplicable. Je pense que la fascination que nous autres occidentaux pouvons avoir pour les théories du complot et indirectement pour l'ésotérisme, qui les deux étant très souvent liés, c'est-à-dire que dans la plupart des théories du complot, on a toujours l'image de grandes sectes, Skulls and Bones, ou de confréries qui manipulent le monde et le destin du monde, etc. Je pense que la naissance de ces théories-là est à mettre en parallèle avec la naissance des religions, c'est-à-dire que quand un phénomène échappe à notre entendement, c'est extrêmement rassurant de se dire que quelqu'un contrôle quelque chose et que cette chose a forcément une volonté derrière. D'accord ? L'apparition de l'univers, c'est extrêmement rassurant de se dire qu'elle a été contrôlée et organisée par quelqu'un, et on lui met une barbe et on l'appelle Dieu. Et de la même manière, ce qui se passe aujourd'hui dans notre quotidien, on a tous envie d'espérer que peut-être ce bordel incroyable auquel on n'arrive plus à comprendre grand-chose, parce qu'il faut aujourd'hui un savoir encyclopédique pour être capable de décoder les crises économiques, les crises politiques, les gars, etc. C'est très rassurant de s'imaginer qu'il y a une petite pièce ovale quelque part dans laquelle les gens complotent et eux contrôlent ça. Et eux, finalement, les gens imaginent que la théorie du complot, c'est quelque chose qui fait peur aux gens, mais pas du tout, ça les rassure. C'est rassurant de s'imaginer. Voilà. Bon. Le phénomène d'actualité, là, qu'il y a en ce moment, qui illustre parfaitement ça et qui est très très drôle, c'est l'affaire DSK.
Attention aux initiales.
Le premier réflexe du public, ce n'est pas d'imaginer que M. Strauss-Kahn est rentré dans une pièce, a eu envie de se taper une femme de ménage, et comme elle n'a pas voulu, il a été un peu violent. Ce qui, pour moi, me semble, en appliquant la théorie de l'explication parcimonique, l'explication la plus simple. Non, pas du tout. C'est forcément Obama qui a comploté avec l'Opus Dei et la franc-maçonnerie pour que la semaine prochaine, la réunion du FMI à laquelle devait participer Strauss-Kahn ne puisse pas avoir lieu, comme ça Sarkozy pourra être élu, puisque évidemment c'est tellement plus simple d'imaginer ça plutôt que d'imaginer que simplement Dominique Strauss-Kahn avait envie de faire une petite partie de jambes en l'air. Et évidemment ça fascine beaucoup plus les gens, c'est-à-dire que si jamais on révèle aujourd'hui au public que Strauss-Kahn avait juste envie d'une petite turlute, les gens vont être déçus. Alors que si on leur dit, ben non, putain, vous aviez raison, en fait, c'est Sarkozy qui a payé un mec pour aller chercher une nana en Guinée, la mettre dans la chambre d'hôtel de Strauss-Kahn une semaine avant la réunion du FMI, et tout ça a été financé par l'Opus Dei, là, les gens vont dire, ah, je le savais, j'en étais sûr. Voilà. Et ben voilà. Et nos romans répondent à cette envie des gens de voir des choses beaucoup plus excitantes que la bassesse sexuelle de notre prochain président de la République.
Je peux te le prendre juste avant de l'imaginer.
Juste avant, c'est quand même une précision, le plus déçu au niveau de la turlute, c'est... Enfin bon,
voilà. Alors déjà, je voudrais rétablir la vérité sur tous les DSK ne sont pas en prison aux États-Unis, hein, quand même, et a priori, les personnes qui s'occupent de l'hôtel actuellement n'ont pas encore déposé plainte, donc tout va bien. Alors, autant on parlait de l'ésotérisme tout à l'heure, j'ai pas, autant théorie du complot, j'ai. Puisque justement, ça a été tout le but du projet Bleiberg de reconstruire la genèse de la Deuxième Guerre mondiale pour aller donner des explications sur un mystérieux consortium qui contrôle le système et qui du coup provoque la guerre dans des buts qui sont très précis, mais qui correspondent aussi à des réalités, c'est-à-dire l'évolution de la médecine qui s'est faite à partir de la Seconde Guerre mondiale, l'évolution technologique dont on bénéficie encore beaucoup. Et surtout le fait que pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fois les moyens engagés par les gouvernements et le fait qu'on ne respecte plus l'éthique de recherche a permis des avancées dont on bénéficie tous encore aujourd'hui. Maintenant, par rapport à ce que tu disais, le thriller en règle générale, qu'est-ce qu'on fait? On prend quelqu'un dont le quotidien bascule et qui va effectivement un jour se retrouver confronté à l'inconnu complet, mais installé dans la vie telle qu'on la côtoie, nous, tous les jours. Et quelque part, c'est... Alors, moi, je vois une espèce de grande tricherie, parce que je trouve ça, à titre personnel, beaucoup plus simple que de créer un monde à partir de rien, dans la mesure où c'est le monde dans lequel on évolue, et qu'il est beaucoup plus facile d'aller chercher des explications cachées là-dedans, en ce qui me concerne, plutôt que de créer un monde, effectivement, à partir de rien. Donc, je vais quand même donner le micro à Jean-Philippe, qui, pour l'instant, n'a pas encore eu.
Il en a. Il en a là-bas, qui doit marcher.
Ton point de vue sur
il marche là-bas.
Je sais pas.
Non, mais moi j'ai une autre question à Jean-Philippe. C'est que pour l'instant, on a trois auteurs de thrillers qui m'ont dit que leur roman n'était pas ésotérique. Est-ce que Jean-Philippe Despotes a un roman ésotérique qui n'est pas un thriller?
Voilà, c'est pas un thriller, j'allais le dire. Ésotérique,
puisque ça a été bien préparé, tout ça.
Je sais pas. Moi, ce qui me semble différent de ce que j'ai entendu là, c'est que. Moi, mon point de vue, c'est plutôt de présenter des personnages rationnels, mais dans un monde qui est très différent du monde qu'on connaît aujourd'hui, et dans une réalité et une rationalité qui est plus celle qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec notre vision d'un homme du 21e siècle, si par exemple on s'intéresse aux prophéties de Nostradamus,
ça va être une question de croyance, on y croit, on n'y croit pas, et... alors qu'à l'époque, non. À l'époque, c'était rationnel. L'état de la science au XVIe siècle, donc pour, quand on était face à la peste pour un médecin, par exemple, on, pour le soigner, on n'avait pas grand-chose, on avait des fumigations et des saignées, et on avait la prière, par exemple, qui était donc dans les manuels de médecine, un des outils du médecin, et puis on n'avait pas grand-chose d'autre. Et donc pour un médecin, par exemple, de l'époque, puisque le personnage principal du roman est un médecin, quand il devait supposer la thérapie rationnelle qu'il allait mettre en marche pour sauver un patient, la prière avait le même poids ou l'adoration d'une relique avait le même poids qu'un raisonnement scientifique. Et voilà, ce qui m'intéressait, c'est par exemple voir quelque chose qui nous semble très ésotérique aujourd'hui au XXIe siècle, comme les prophéties de Nostradamus, comme étant un outil très rationnel pour les gens de l'époque, parce qu'il pouvait sembler très, très naturel, surtout donc dans le contexte religieux de l'époque, où quelqu'un qui avait lu Jean Calvin savait que savait plus qu'il ne croyait, il savait que l'avenir des hommes était écrit par avance et que quelqu'un ait un moyen technique de lire par-dessus l'épaule de Dieu pour savoir de quoi l'avenir sera fait, ça pouvait être tout à fait rationnel.
D'autant qu'on est en 1558, je crois, au début du livre, hein, si je ne me trompe pas, sur la date. Donc on est 15 ans avant la Saint-Barthélemy, quoi, hein, et on sent les prémices déjà pratiquement dans tout le livre.
Oui, en fait, c'est ça qui rend la période passionnante, c'est-à-dire qu'à la fois, on est dans une tension religieuse qui commence à grossir, mais qui n'est pas si importante que ça. Enfin, c'était l'époque où il y avait le plus de protestants en France, dans toute l'histoire de France. Et surtout, même s'il n'y avait pas une tension encore énorme entre les religions, il y avait un questionnement individuel de chaque personne, de savoir quel choix il allait faire entre le protestantisme et le catholicisme, et en particulier chez les intellectuels.
Alors il y a quand même un élément sur lequel je pense, Jean-Philippe, vous allez rejoindre les trois autres, c'est quand même aujourd'hui, en 2011, quand on sort un livre avec Nostradamus écrit en gros dessus, on joue quand même sur un imaginaire collectif, parce que j'imagine que ce nom-là, il évoque des choses, effectivement, qui n'ont peut-être pas un grand rapport avec le personnage tel qu'il a été, tel qu'il a existé, mais avec son mythe.
Oui, c'est clairement le but, mais c'est un peu le risque aussi. Hein. C'est-à-dire que, Nostradamus déclenche un imaginaire aujourd'hui. Effectivement, il y a l'ésotérisme, l'astrologie, les prophéties, et l'avènement d'Hitler, et le 11 septembre, et toutes ces choses-là. Et justement, c'est pas de ça que parle le livre. Donc c'est le risque. Hein.
Il y a quand même cet élément-là dans la relation qu'a la reine de France avec, avec Nostradamus.
Oui, mais je pense, enfin en tout cas c'est une hypothèse que je fais, c'est qu'elle ne voyait pas ça comme justement une superstition, alors un peu quand même, mais c'était vraiment un arsenal dans ses décisions politiques, et même si effectivement Nostradamus était un conseiller très influent de Catherine de Médicis, moi ce qui m'intéressait c'est plus... c'est ça, le fait que les pouvoirs de Nostradamus étaient un arsenal, un des outils sur un pied d'égalité avec tous les outils politiques dont elle pouvait disposer, à tel point que des gens très influents pouvaient monter une machination incroyable pour essayer de percer les secrets de Nostradamus, pour essayer justement de diminuer son influence à la cour de France.
Voilà, et même le salir, hein, on peut dire ça comme ça. Hein.
Voilà, alors après... Voilà. Alors, sachant qu'après le jeu du livre, c'est plutôt de s'amuser à justement proposer une théorie un peu nouvelle et un peu originale autour de Nostradamus.
Voilà. Donc, si vous avez envie de lire un roman historique, lisez-le. Si vous avez envie de lire un roman fantastique, lisez-le. Si vous avez envie de trouver un mélange très original, très étonnant, vraiment, lisez ce livre. Évidemment, on va en reparler dans quelques instants. Mais je vais revenir à Cédric aussi parce que là, ce qu'on vient de dire, je trouve ça. C'est très en lien avec ce que tu écris, parce que le mystère, il est là, et c'est toutes les intrigues se nouent autour de la confrontation de personnages lambda, finalement, avec des phénomènes qu'ils ne s'expliquent pas eux-mêmes, qu'ils ont peut-être même du mal à accepter, à comprendre, et qui vont créer à la fois la tension dramatique, l'action, le thriller, et puis nous aussi, nous mettre dans un état un peu particulier aussi, nous lecteurs.
Alors, oui, en fait, en tout cas, moi, c'est aussi comme ça que je me suis mis petit à petit au genre, pour recoller l'étiquette à nouveau, mais thriller, c'est-à-dire de pouvoir donner des émotions fortes au lecteur, tout simplement. En fait, c'est comme ça que moi, je le vois. Et donc, est un genre qui a ses codes, alors que avec lesquels j'essaie de jouer parfois, ou auxquels je me conforme aussi parfois. Et c'est aussi pour ça que au début, c'était pas le but de mettre une enquête policière dans mes livres. Le premier que j'ai écrit dans ce genre-là, c'était L'Enfant des cimetières. J'étais parti effectivement d'un moment où la réalité telle qu'on la connaît dérape, et que le quotidien d'une personne qui a ses propres problèmes déjà personnels vis-à-vis de son métier, par exemple, il est photographe pour la presse. Donc cette personne qui s'appelle David est confrontée à des bizarreries, donc ces fameuses choses, ces faisceaux d'influence, de feu qui traverse nos vies quotidiennes bien rangées et qui révèlent notre monde et qui déborde dans le nôtre. Et en fait, à partir de là, est né presque par hasard finalement un personnage de flic qui m'accompagne maintenant depuis pour les trois derniers livres, qui s'appelle Alexandre Beauvert, qui est la criminelle et qui est toujours mis sur des... Donc la vie est traversée finalement par défaut lui aussi, par ces phénomènes surnaturels, et qui va enquêter en général en parallèle aux personnages principaux qui eux sont confrontés de plein fouet à ces phénomènes vraiment d'origine surnaturelle. Et je me suis rendu compte et j'ai accentué en plus ce principe-là et ce jeu-là dans mon dernier roman, donc Le Jeu de l'ombre, où vraiment il y a deux histoires en parallèle. D'une part, l'enquête policière menée par le flic, et deuxième film narratif, la vie donc, d'un musicien qui a eu un accident et à qui justement il arrive quelque chose de totalement... surnaturel, c'est-à-dire qu'il est miraculé de son accident, il a fait une chute de 30 mètres en bagnole en bas d'un pont, et il souffre d'un symptôme absolument inexplicable qui est qu'il n'entend plus la musique, alors qu'il entend tout sauf la musique, et aucun médecin bien sûr n'est capable d'expliquer ça. Et donc voilà, c'est une personne quasi ordinaire, voilà, il a un petit peu le statut de musicien très reconnu, il a la richesse, il a les femmes, il a tout, et en fait du jour au lendemain il perd tout finalement. Et j'ai bien joué avec ça, puisque aussi ces personnages-là, bon, même s'ils sont, je force le trait à chaque fois, puisque c'est un roman, il faut que ce soit haut en couleur, mais j'essaye de faire en sorte que le lecteur se reconnaisse à divers degrés dans mes personnages, et puisse aussi se dire, mais comment je réagirais si moi-même j'étais confronté à ça, essayer de mettre en œuvre aussi, mettre en scène mes propres angoisses ou interrogations. Alors les mettre en image de manière assez spéciale en espérant toujours que le lecteur lui aussi se reconnaîtra et prendra mes personnages en sympathie, même les plus gros salauds, comme c'est le cas de ce musicien dans Le Jeu de l'ombre, Malco Swan, qui est quand même un mec pas très recommandable, mais en tout cas qui souffre de tous les travers des mecs, ses besoins idiots de se prouver des choses, notamment en séduction féminine ou autre, et donc qui n'est pas un personnage très sympa, mais qui j'espère devient touchant. Voilà, et qu'au fil de la lecture, le lecteur peut s'identifier de certaines manières à ces personnages-là, et donc prendre sympathie et éprouve des émotions avec eux quand ils sont confrontés à l'imaginable.
Henri, toi, l'ésotérisme, on l'a dit, c'est présent depuis le Testament des siècles, mais après, il y a eu d'autres personnages, on parlait de Nostradamus, chez toi, c'est Nicolas Flamel, finalement, aussi, qu'on retrouve et qui vient apporter cette touche de mystère et d'ésotérisme.
Indirectement oui, mais c'est amusant parce que j'ai un peu fait la même chose que Jean-Philippe, c'est-à-dire que je me suis amusé à imaginer que Flamel, dont aujourd'hui on n'a aucun texte évidemment, c'est-à-dire que tous les écrits qui sont signés aujourd'hui Nicolas Flamel n'ont pas été écrits par Nicolas Flamel. Et il y a une légende historique autour de Nicolas Flamel qui, pour peu qu'on l'étudie avec un regard historique, ne serait-ce qu'un minimum scientifique, ne tient absolument pas la route. Et je me suis imaginé, justement, j'ai voulu imaginer que Nicolas Flamel nous laissait un texte dans lequel il nous disait qui il était. En imaginant qu'il était lui-même conscient de la légende qui était en train de naître autour de lui. Pas fascinant, mais en gros, je me suis amusé à imaginer que Nicolas Flamel était tout sauf un alchimiste, ce qui est fort probable. Je pense pas que Nicolas Flamel ait transformé la merde en or, ou l'inverse, qui serait beaucoup plus drôle d'ailleurs, mais plutôt un copiste extrêmement intelligent et qui a fait fortune parce qu'il était probablement l'un des meilleurs copistes de la place de Paris. Voilà. Pourquoi je fais ça ? C'est très triste parce qu'en fait, la plupart de mes thrillers, pas tous, hein, mais la plupart de mes thrillers sont des thrillers ésotériques, dans lesquels je fais exactement, mais bien, beaucoup moins bien, mais je fais la même chose que ce que fait Umberto Eco dans Le Pendule de Foucault, c'est-à-dire que j'explique que l'ésotérisme, c'est de la foutaise. Et pourtant, j'en fais des romans. Pourquoi je fais ça ? Parce que je suis persuadé que ce qu'on appelle ésotérisme n'a absolument aucun intérêt, et que le vrai ésotérisme, il est ailleurs, et que la vie n'a pas besoin de ce surnaturel de bazar pour être merveilleuse. C'est-à-dire que Nicolas Flamel, par exemple, n'a pas besoin d'être un alchimiste pour être un personnage fascinant. La vie que nous menons tous aujourd'hui n'a pas besoin d'avoir une intervention surnaturelle pour être magnifique, superbe, intrigante, étonnante. Et le moteur de la vie n'a pas besoin d'avoir d'autres aspirations que des aspirations très très simples auxquelles nous avons droit tous les uns les autres. J'espère et je veux que dans chacun de mes romans, il se passe quelque chose qui dépasse l'ésotérisme de bazar, la croyance en des superstitions débiles, voilà, qui n'ont aucun intérêt. Je crois que quand on traverse, il y a une expérience commune que nous avons tous entre la naissance et la mort, peut avoir beaucoup d'accroches 10 fois plus intéressantes que les conneries qu'essayent de nous vendre les voyants, les médiums et toutes ces sortes de choses. Il y a de la magie dans les rapports humains. L'amour, rien que l'amour, pour ne parler que de l'amour, c'est quelque chose en soi déjà de tellement magique, de tellement incroyable, de tellement inexplicable, de tellement infini. Ça fait des millénaires que l'amour est le moteur de la reproduction et que nous sommes tous ici les enfants d'un amour qui peut avoir duré, pour les moins performants, 15 secondes, pour les plus performants, 50 ou 60 ans. Cette chose-là en soi mérite déjà tellement de romans et tellement de phrases et tellement de mots qu'on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et donc, je ne sais pas si la plupart des gens qui ont lu Le Pendule de Foucault de Umberto Eco n'ont rien compris à ce livre, malheureusement. C'est très prétentieux de dire ça, mais c'est quand même un roman qui, sur 700 pages, fait un panorama exhaustif, savant et érudit de l'ésotérisme à travers les âges, l'ésotérisme oriental, l'ésotérisme occidental, l'ésotérisme moderne, l'ésotérisme ancien, grec, voilà. En partant d'un document qui eût été retrouvé par un type un peu bizarre et dans lequel il manque une lettre sur deux, et à partir de ce document, il retrace toute l'histoire d'une société secrète longtemps avant tous les romans dont on parle aujourd'hui, qui aurait traversé les âges pour nous transmettre un message, etc. Le roman est fascinant, extrêmement bien écrit, la plupart des gens l'ont lu. Beaucoup n'ont pas lu les 15 dernières pages, ou en tout cas les ont pas forcément comprises, dans lesquelles Umberto Eco nous dit que, en fait, ce fameux document du XIe siècle, si je me souviens bien, à partir duquel toute cette théorie ésotérique, formidable, avec les chevaliers du temple, les maçons, les compagnons du devoir, les machins, c'était une recette de cuisine. Et que, en changeant les lettres qui manquaient par d'autres, pendant des années et des années, des gens sont morts en étant persuadés qu'ils avaient sous la main un document incroyable qui révélait plein de secrets, et finalement pas du tout, c'était juste une recette de cuisine assez basique pour apprendre à faire une tourte. Et beaucoup de gens sont morts à cause de cette recette de cuisine. Voilà, c'est ça le Pendule de Foucault. Beaucoup de gens ne sont pas allés au bout du Pendule de Foucault et n'ont pas compris le message du Pendule de Foucault. Mais qu'est-ce que dit le Pendule de Foucault ? Il nous dit que finalement, le secret d'une recette de cuisine est vachement plus intéressant que le secret que Jésus aurait pu laisser aux Templiers. Et il n'a pas tort. Tous les jours, il est absolument nécessaire que vous mangiez. Je ne suis pas sûr qu'il soit absolument nécessaire que vous croyiez au complot des Templiers pour survivre. Voilà. Et l'amour et la bouffe sont finalement plus intéressantes que le reste.
Voilà. Évitez quand même les concombres, hein, par les temps qui courent. Mais quand même, j'insiste, la fin des cathédrales du vide, tu peux pas m'expliquer quand même que t'as pas une intervention du surnaturel dedans?
Bah si, absolument.
Ah bon?
Harry essaye, Harry est confronté évidemment à un événement qui lui semble surnaturel, mais comme toujours, ce qui aujourd'hui, enfin, le surnaturel d'aujourd'hui et la science de demain, montrer, je sais pas, enfin, montrer une voiture à un mec du 14e siècle, il va d'ailleurs, c'est dans Evil Dead 3 d'ailleurs qu'il y a cette scène extraordinaire. Bruce Dickinson, enfin pas Bruce Dickinson, c'est quoi? Bruce Campbell. Bruce Dickinson, c'est le chanteur de Lord Maiden, je comprends. Bruce Campbell remonte dans le temps avec une bagnole et arrive au Moyen-Âge avec une voiture, forcément, c'est un dieu, quoi. Enfin voilà. Des choses qui aujourd'hui nous paraissent surnaturelles auront probablement une explication un jour. Je crois que la dernière question qui restera, on finira par répondre à tout ça, hein. On finira par avoir des réponses à toutes ces questions qui aujourd'hui nous semblent un peu étranges. La dernière question qui restera et à laquelle j'espère qu'on ne pourra pas répondre, c'est pourquoi? Il n'y a pas d'autres questions. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura scientifiquement expliqué toutes les choses qui nous paraissent bizarres, il restera toujours une dernière question, c'est d'accord, ok, on sait comment tout ça marche, mais pourquoi? Pourquoi on est là? Pourquoi c'est apparu? On sait comment c'est apparu, mais pourquoi c'est apparu? Voilà, cette question-là, je pense qu'on n'y répondra jamais, et fort heureusement qu'on n'y répondra jamais, parce que justement, on traverse à peu près tous la même chose. Deux expériences extrêmement solitaires qui sont la naissance et la mort. C'est vraiment deux choses qui ne se partagent pas. Hein. Même des jumeaux ne partagent pas leur naissance. Ou alors c'est vraiment douloureux pour la mère si les deux sortent en même temps, mais globalement, a priori, ils sortent en même temps. C'est vraiment deux expériences solitaires. La mort aussi. On n'est jamais aussi seul qu'au moment de sa mort, du moins de ce qu'on nous en a dit. Et voilà. Entre ces deux expériences solitaires, on peut partager beaucoup de choses. Mais en fait, je suis en train de me souvenir, il me semble que c'est la première phrase de... Merde, c'est pas dans celui-là, c'est dans l'autre. C'est une phrase de Suran qui dit, finalement, en gros, Suran disait la vie, on le sait bien, n'a aucun sens, mais ce qui en fait la beauté, c'est que chacun de nous essaye de lui en donner. Et je pense que, voilà, tout se résume à ça, c'est que entre le moment de notre naissance et le moment de notre mort, la chose la plus belle qu'on puisse partager, c'est d'avoir envie de donner un sens à ces deux événements finalement extrêmement solitaires et plutôt désespérants, surtout le deuxième. Et ça se passe à travers, je crois que c'est le sens, je m'embrouille un peu, mais je crois que c'est le sens de littérature, c'est-à-dire de faire en sorte que cette solitude dans laquelle nous sommes apparus et dans laquelle nous allons nous enfermer puisse au moins être... rompu pendant quelques années par du partage. Et je crois que la littérature, ce n'est que ça. Un roman, ce n'est qu'un objet, un média, dans lequel un émetteur va dire à des récepteurs qui ne sont pas en face de lui, la plupart du temps, on n'assiste pas à la lecture de nos livres. Enfin voilà, moi j'ai des lecteurs dans 14 ou 15 pays, donc je ne les vois jamais, je ne sais pas, je ne les connais pas et je ne les verrai jamais. Et pendant le temps de cette lecture, eux vont se rassurer en se disant... Mes angoisses, mes doutes, mes espérances, mes joies, mes émotions, mes peines, mes érections et mes débandades ne sont pas solitaires, puisque ce type-là les écrit dans son livre, il les a vécues probablement, et on est probablement quelques-uns à les lire. Et cet instant de partage est aussi bénéfique pour l'émetteur, parce que moi ça me rassure quand je rencontre mes lecteurs dans les salons qui me disent « Ah, ce que vous avez dit là... je l'ai vécu, je le comprends, je le sais, je ressens la même chose, ou pas du tout, votre livre m'a fait chier, c'est incroyable parce qu'il est mal écrit. Ces moments de partage-là sont salvateurs, je pense, entre ces deux expériences. Et je crois que cette réponse n'a absolument plus rien à voir avec la question que tu m'as posée.
Je vais faire parler les deux qui sont là, parce que... plus sérieusement, on va parler de la science aussi, parce que je pense que c'est un élément important aussi, mine de rien, dans ces thrillers, dans ce mystère et dans ce que ça crée, parce que tout simplement, le mystère, il peut naître aussi de ce qu'on comprend pas, de ce qu'on comprend mal, ou finalement, de ce qu'on n'a peut-être pas forcément envie de comprendre non plus parfois. C'est le cas dans le projet Bleiberg, parce que tout tourne, enfin, on le sait assez tardivement, mais autour de questions scientifiques. C'est ça qui fait le plus froid dans le dos, finalement, dans le projet Bleiberg. C'est ce qu'on découvre à la fin, ce qui est normal pour un thriller, mais le cheminement intellectuel que ça amène, c'est effarant.
En fait, c'est le parallèle qu'on pourrait faire entre l'ésotérisme et ce dont je traite dans le projet Bleiberg, c'est que, pour moi, l'ésotérisme, c'est une boîte à outils du pouvoir. Du pouvoir que l'on va asseoir sur une communauté, sur un peuple, sur un pays, sur une nation. Ça a été le cas pendant des années, on appelait ça effectivement religion, ça l'est encore par moments et on voit les impacts que ça peut avoir. Mais aujourd'hui, il y a deux très grands pouvoirs, trois on va dire, qui sont installés. Il y a la science, il y a l'argent et il y a les médias. Et ce sont ces pouvoirs-là que j'ai utilisés et que j'ai d'une certaine façon explicité dans le projet de Leiberg. Pour revenir sur l'ésotérisme, parce que, enfin, il y a des gens ici qui savent d'où vient la notion de Führer sur Hitler. Ce que veut dire le fait d'être Führer de l'Allemagne. C'est une notion ésotérique. C'est une notion de prophète. Et c'est une notion qui a été amenée à Hitler par la société privée et qui a été amenée par un homme qui s'appelle Dieter Eckart. Et c'est lui qui a amené la notion de prophète à Adolf Hitler, d'où cette notion de guide qu'on retrouve dans la Russie, enfin dans l'URSS stalinienne. Avec le Void, donc, qui était effectivement le guide. Après, moi, mon problème ne se situe pas au niveau de Dieu, il se situe au niveau du moment où l'homme se prend pour Dieu. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, le moins que l'on puisse dire, ça avait commencé déjà bien avant, mais c'est que là, on a battu tous les records entre ce que les Allemands ont fait dans les camps de concentration, et pas seulement les Allemands, mais je vais faire le distinguo, les SS, parce qu'il y avait beaucoup d'autres pays que les Allemands dans les SS et particulièrement dans les médecins, se sont permis de faire sur les êtres humains et dont, je répète, on bénéficie tous aujourd'hui. En Japon, il y a eu toute une unité qui s'appelle l'unité 731, c'est pareil, je ne sais pas si vous connaissez, qui à partir de 1937, au cours de l'invasion japonaise en Mandchourie, ils ont un total de morts de l'ordre de 1 200 000 personnes. Sur uniquement des expérimentations scientifiques. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur une volonté de destruction systématique d'une population, mais sur la mise en place de programmes scientifiques spéciaux. Alors, des études sur la décompression, si on va dans l'espace, si on a des satellites, si vous pouvez regarder parfois des matchs de boxe en direct, c'est grâce à tout un tas de Chinois qui ont été mis dans des ballons, qu'on a plongé dans de l'eau froide, qu'on a disséqué vivant, enfin bon. On a inoculé des maladies à tout un tas de gens, bon. Voilà. Et ça, bizarrement, moi, aujourd'hui, ça me fait presque plus peur, en tout cas dans nos sociétés, que la notion de religion qui, dans le monde actuel, je parle du monde occidental, a finalement perdu de son pouvoir. Je veux dire, le pape, aujourd'hui, peut parler, a priori, à moins d'être vraiment un très fervent catholique, il n'y a plus beaucoup d'impact, quoi. D'ailleurs, il est allé il n'y a pas très longtemps en République tchèque, et il y a eu une visite qui a été absolument terrifiante, parce qu'il y avait 20 personnes. Donc interdiction des caméras et surtout on ne diffuse pas les images. Donc moi j'appartiens à une génération pour laquelle la religion est un problème personnel qui, alors je traite ça plus dans les vestiges de l'aube où je parle de ce que la religion peut avoir comme impact, notamment aux alentours du 11 septembre, mais encore une fois, est-ce que c'est la religion ou est-ce que c'est l'outil qu'elle représente pour diriger des gens et pour manœuvrer des gens au cours de luttes de pouvoir? Voilà. Et je pense que plus notre société devient technologique et plus finalement elle s'éloigne de ces choses-là, mais plus du coup le roman a un sens dans le fait de les remettre au bout du jour, ce que fait Eric par exemple, ce que je fais aussi en amenant des gens dont le quotidien bascule sur autre chose que cette technologie. Mais comme du coup ce sont des choses qu'on a tendance à oublier dans notre quotidien, et bien le choc en devient d'autant plus violent.
Jean-Philippe, justement, dans Les jours étranges de Nostradamus, l'époque mêle vraiment... vous l'avez déjà dit, très étroitement, religion et science, ce sont les mêmes finalement qui expriment les deux. Depuis, il y a eu une séparation entre foi et science, même peut-être une mise en opposition. Là, c'est une complémentarité. Et ce que la science n'arrive pas à expliquer, c'est la foi qui l'explique.
Oui, alors je me permets juste avant une petite parenthèse, excusez-moi, allez-y. Avant de répondre à la question. Déjà, pour rebondir à propos de ce que disait Henri tout à l'heure, parce que ça résonne bien, parce que ça correspond vraiment à des choses qui m'intéressent beaucoup et que j'ai essayé de dire, en particulier dans le Nostradamus. Justement, moi, ce côté personnel derrière l'ésotérisme, quoi. Et justement, c'est ce que j'ai vraiment... C'est l'aspect qui m'a intéressé dans le personnage de Nostradamus, c'est d'essayer de montrer que... Moi, je me suis dit, c'est une personne... Même de son vivant, tout le monde allait le voir et tout le monde le consultait uniquement pour lui demander d'annoncer des malheurs au monde, de quelque part de prendre sur ses Cassandre quoi, de prendre sur ses épaules le malheur des autres et d'annoncer les catastrophes de l'humanité aux gens qui venaient le voir et qui en plus personne n'était là pour écouter ses propres malheurs. Il avait perdu sa femme de façon mystérieuse, au point qu'il avait disparu complètement de la société. Et alors on raconte plein de mythes sur ses voyages en Perse et en Inde, mais dans la réalité on s'imagine bien, enfin en tout cas moi c'est ce que je me suis amusé à imaginer, c'est voilà, c'est un drame quoi. Il a perdu sa femme, il est parti, il n'a pas supporté de continuer à vivre dans la société humaine. Et puis quand il est revenu, il a commencé à écrire ses prophéties 5 ans plus tard. Et après, on l'a plus vu que par ces lunettes-là. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui doit porter ce fardeau-là et qui doit que personne n'écoute et qui doit porter le malheur de l'humanité sur ses épaules. C'est un peu ça, quoi. Et qu'effectivement, au-delà de l'ésotérisme, il y a un homme qui sommeille. Et donc la question, c'est...
Au-delà de ça, sur foi et religion, là on a vraiment l'impression que, sur science et religion pardon, on a l'impression que ce que la science ne sait expliquer, c'est la foi qui finalement l'explique.
Oui, alors c'est particulièrement vrai de l'époque du 16e siècle, parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, la prière et les reliques faisaient partie de la boîte à outils des médecins, par exemple, pour soigner les malades. Mais même, je rebondirai sur les démons de Paris et l'époque qui est la belle époque, même à cette époque-là, je trouve, c'est l'âge d'or de l'occultisme en France, les médiums, et il y avait un savant mélange entre la science, dans l'esprit des gens, entre la science et l'occultisme, qui est propre à cette époque-là. Et
avec des gens très sérieux qui, entre guillemets, très sérieux, qui s'y a donné. Soit par curiosité, soit par engagement véritable.
Oui, alors moi je me suis intéressé en particulier au pape de l'occultisme de l'époque, donc Papus. Là, quelque part, j'ai fait un peu avec lui à plus petite échelle ce que j'ai fait après avec Nostradamus, c'est-à-dire de montrer quelqu'un très engagé dans l'occultisme, En fait, oui, tout ça, je me souviens, ça m'était venu d'une photo de Papus, où il était en photo, une espèce de bric-à-brac incroyable, de symboles, de choses très, enfin bon, très ésotériques. Et de voir ce brave barbu au milieu de tout ce bric-à-brac, enfin, avec son côté un petit peu ridicule. Et je me suis amusé, en particulier dans les démons de Paris, à faire que ce gars-là, dans sa vie, deux fois, il va réussir à invoquer un démon sur Terre, et deux fois, ce ne sera pas de sa faute, en fait. Et alors qu'il aura été le pape de l'occultisme, et que tout le monde vient le consulter pour lui demander des vérités sur l'au-delà, et donc parce que le grand fonds de commerce de Papus, c'était la communication avec l'au-delà, et il va essayer de faire ça toute sa vie, et voilà, par un concours de circonstances, la seule fois où il va y arriver, c'est pas de sa faute. Et c'était un peu l'idée de justement d'aller chercher l'humain derrière bric-à-brac, quoi, et de se dire, s'amuser avec ce personnage et se dire qu'est-ce qui va se passer en sa tête quand il va enfin réussir et qu'il va se rendre compte quelque part, parce qu'il en est conscient, que c'est pas sa faute et que ça n'a rien à voir avec ses théories.
D'ailleurs, dans les deux livres, on a la sensation que tout est écrit, mais que finalement, même en sachant que tout est écrit, on ne maîtrise rien.
Oui, enfin, quelque part, c'est le problème de Nostradamus, oui, qui maîtrise rien alors qu'il voit tout.
Cédric, moi j'ai un souvenir de Danse macabre de Stephen King, un de ses premiers livres publiés en France, et il y a une petite préface au début où il explique que s'il a commencé à écrire ce genre de livre, c'est parce que tous les soirs, il regarde sous son lit et dans son armoire pour voir s'il n'y a pas des monstres. En lisant tes romans, moi je me suis toujours demandé, tu regardes sous ton lit s'il y a des monstres aussi?
Non, mais cette phrase de Stephen King, effectivement, je la partage à titre personnel. Le fait de. Il disait quelque chose comme oui, je crois pas aux fantômes, mais ça n'empêche pas d'en avoir peur. Et je pense que la littérature d'évasion, telle que moi je la conçois et que je l'aime, c'est vraiment ça. Quoi. C'est tout ce qui est dit dans cette phrase. Et en écoutant tout ce qui est dit, c'est amusant parce que je me reconnais dans pratiquement tout ce qui est dit, à une différence près, c'est que peut-être que ce que j'écris personnellement, c'est là qu'on voit que ça relève plus du genre fantastique que thriller proprement dit, dans le sens où moi ce qui m'intéresse c'est vraiment les rapports humains. justement les personnages et ce qu'on vit en fait dans notre tête, hein, avec nos émotions et ce mystère de l'humanité, du partage, des rapports humains, et donc forcément quand ça dérape, de ce qui peut nous faire peur. Et c'est vrai que Stephen King a été pour moi une influence phénoménale, quoi. Il a changé ma vie, on peut dire, quand j'ai eu ça adolescent.
Le jeu de l'ombre, c'est criant. Hein. Pour moi, c'est...
Le jeu de l'ombre, au niveau des influences, vraiment, quand je l'ai écrit, c'était vraiment le giallo, les films de Dario Argento, et cette école-là de cinéma des années 70-80.
Moi, j'ai retrouvé des thèmes kingiens.
Mais oui, je pense que Stephen King m'a marqué à vie, même si ça fait quelques années que j'ai pas lu, enfin, ces derniers, je ne les ai pas lus, par exemple, mais je pense qu'il m'a appris à écrire, du point de vue de la structure, et du point de vue, justement, de le fait de placer au cœur du récit, plus que des éléments sociopolitiques, hein, vraiment placer l'être humain, le quotidien, nos vies, finalement, et c'était un des premiers, en tout cas, quand j'étais ado, ça a été le premier auteur que j'ai découvert qui construisait ses histoires autour de ça, de véritables personnages qui occupaient de nous, finalement, bon là c'était les États-Unis, mais déjà à l'époque, ce qu'on vivait en France, et ce qu'il décrivait comme petit village américain, était déjà assez semblable dans la mondialisation, et on peut se reconnaître vraiment dans les personnages. Et voilà, et après le mystère est venu vraiment après. Mais je pense que c'est la différence principale entre ce que je fais et ce que tous les trois vous pouvez faire, il me semble.
Non. Moi je suis pas d'accord, Cédric, mais je suis d'accord avec toi, sauf qu'en fait je généralise ce que tu dis à la littérature en tout entière. C'est-à-dire que pour moi, il ne reste d'un bon roman que les personnages. C'est-à-dire que dans la littérature, ce qui nous marque, c'est Julien Sorel, c'est Bilbo le Hobbit. Tu parles de Stephen King, ça va être Fat Bolon dans La Part des Ténèbres. Pour Romain Gary, c'est Momo dans La Vie devant soi. Ce qui va rester 30 ans ou 40 ans après la lecture d'un livre, c'est ces personnages. Et que ce soit du fantastique, que ce soit du thriller, que ce soit du polar, ou que ce soit de la SF, c'est ça. Et
enfin, je flippe devant un champ de maïs, maintenant, depuis que j'ai lu
Stephen King. Mais cela dit, si ce champ de maïs n'avait pas été traversé par des personnages attachants et dans lesquels tu avais pu identifier, je t'assure que tu aurais fini agriculteur. Je vais même plus loin que ça. Je vais te dire un truc qui est amusant. C'est que moi, quand j'écris du thriller, il y a parfois des gens qui me disent « Voilà, ça me fait un peu peur votre truc là, machin. Bon. » Et du coup, on a une image du lectorat de thriller qui va être... et c'est vrai sur une certaine partie, sur une certaine frange de lecteurs de thriller, des mecs qui aiment bien quand ça bastonne, qu'il y a des flingues, de l'action, des courses de bagnole, et que ça charcle, et qu'il y a des morts, et un peu de sexe, etc. Ces lecteurs-là, ils existent. Hein. J'ai vraiment ça parmi mes lecteurs. J'ai des mecs, moi j'aime bien les romans quand ça canarde et tout, j'aime bien ton roman, ça commence, il y a du sang dès le début, c'est cool, etc. N'empêche que ces mecs-là, je les vois, ils lisent Le Rasoir d'Occam, ils viennent me voir au salon du livre, ils font la queue, etc. Ils sont dédicacés le bouquin, et vous savez ce qu'ils me disent? Ils me disent « J'ai lu Le Rasoir d'Occam, mais quand même je voudrais savoir l'histoire d'amour entre le héros et sa copine, ça va bien finir quand même. » Tous, même les gros machos qui aiment bien les flingues, et voilà. C'est ça qui reste. Je pense que c'est l'émotion qui va rester, et tes romans... quand tu dis ça, je pense que ça prouve que c'est des bons romans, parce que je pense que finalement, tous les débats qu'on a sur la littérature de genre, je vais faire l'avocat du diable, pour moi, n'ont absolument aucun intérêt. Le genre ne fait pas l'intérêt du livre. Ce qui fait l'intérêt du livre, c'est ce qui se passe avec ces personnages. Le personnage réussi fait un bon livre. Et je pense que
Merci de dire au bout de trois quarts d'heure seulement, mais ça n'a aucun intérêt.
Je suis désolé, je pense que si Cédric a du succès, c'est parce que ces personnages sont touchants, et c'est pas parce que c'est des vampires, c'est parce qu'ils sont touchants, point barre. D'ailleurs, c'est pas des vampires.
Moi, j'ai quand même une dernière question, parce qu'on a parlé mystère et ésotérisme dans les thrillers, mais quand je vous lis tous, il y a un mot aussi qui me vient, c'est le mot rédemption. Est-ce que ça... Bon, ça inspire personne sauf moi.
Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a toujours un truc très chelou avec le mot rédemption, c'est que le correcteur orthographique de Word veut toujours lui mettre une majuscule. Et je plaisante pas, je suis très sérieux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'écris rédemption, Word me le souligne en disant qu'il faut mettre une majuscule. Alors j'aimerais qu'on m'explique pourquoi. Est-ce que Bill Gates a une relation à la rédemption tellement grande et qu'il a des choses tellement grandes à se faire pardonner qu'il peut mettre une majuscule au mot rédemption?
Il touche pas des droits sur un truc? Il y a une ville qui s'appelle rédemption?
Je ne sais pas.
Cédric? sur la rédemption. Moi, ça, vraiment, c'est un truc qui me frappe dans tout.
Oui, j'ai l'impression, mais après, il faut pas oublier que. Ah, moi, je suis beaucoup moins de technique, hein. Enfin, je parle du livre, évidemment. Mais disons que tous les personnages vraiment viennent de moi, de ce que je peux ressentir, ce que je peux vivre au quotidien. Et j'ai l'impression que c'est aussi un exutoire et une catharsis quand j'écris. Donc, toutes les problématiques, et on revient à cette fameuse morale judéo-chrétienne dans laquelle on a tous été. Enfin, quasiment tout le monde était élevé ici. M'a imprégné et cette question de trouver sa place ou d'essayer de devenir soi-même et réaliser. C'est une chose très étrange d'abord qui se passe.
Je l'ai marié.
Notamment dans le jeu de l'ombre, en fait, je parlais de ce fameux personnage qui est vraiment détestable, mais qui, au fil du livre, se rend compte à quel point toute sa vie il a été dans un égoïsme monumental, qu'il a jamais. Tout a toujours tourné autour de lui. Qu'il n'a jamais eu le temps de parler vraiment avec ses propres amis ni de les connaître. Et c'est vraiment, je pense, aussi une histoire de rédemption, puisque le jour où tout s'écroule et où c'est trop tard finalement pour revenir en arrière, lui finalement réalise tout ce qu'il aurait pu faire ou dû faire, mais c'est trop tard, quoi. Et c'est ça, je pense que c'est le genre d'émotion que j'ai envie de provoquer chez le lecteur.
David.
Puisque c'est comme ça qu'on ressent des choses.
Bah, ouais, je vais faire une réponse qui n'est pas vraiment la mienne, mais à laquelle j'adhère. Pour les amateurs de bande dessinée, on a souvent évoqué le problème, enfin, ou la question de la rédemption avec Serge Le Tendre, qui a écrit notamment La quête de l'oiseau du temps en BD. Tu parlais de société judéo-chrétienne, elle est basée à l'origine sur le péché originel, la faute, Adam et Ève. Bon. Donc quelque part, je me situe effectivement, forcément, parce qu'élevé dans cette logique, là-dedans, après il y a le côté plus philosophie grecque qui est arrivé plus tard, c'est le côté « deviens qui tu es ». Donc la quête initiatique de personnage. Henri, je ne peux pas être plus d'accord avec toi que ce que tu as. Enfin, je pourrais pas mieux dire ce que tu as dit. J'écris d'abord des personnages. Et ce qui m'intéresse, c'est les interactions entre ces personnages, leur devenir, l'attachement que le lecteur va pouvoir nouer avec ce personnage. Et c'est à la limite de ce qui va leur arriver que peut naître le côté thriller, le côté frisson, le côté aventure, et que le lecteur a envie de tourner la page en disant mais qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce que ça va bien finir? Le côté rédemption est de toute façon lié à la quête initiatique. Les deux sont très difficilement dissociables. Et encore une fois, c'est valable dans nos cultures, c'est pas forcément valable dans toutes.
Bah, notre Nostradamus, vous avez déjà un petit peu répondu. Hein. Vous avez déjà un petit peu répondu, Jean-Philippe, mais il a des choses à se pardonner à lui-même, finalement. Et la manière qu'il a trouvée, c'est d'endosser le malheur des autres.
C'est sûr, mais je pense qu'il vaut mieux pas trop parler de ça pour pas trop dévoiler du bouquin, parce que c'est vraiment la clé.
Non, mais quand on le découvre, il est quand même quasiment ermite. Il vit en marge complètement de la société. Il est en plus, oui. il a quand même une allure quand on le découvre, qui est quand même assez particulière, avec une espèce de costume. On
mais
a vu des
protège,
on a vu des personnages vénitiens circuler.
Protège de l'extérieur, en fait, il se protège de l'extérieur.
C'est oui, voilà, c'est ça.
Comme ça qu'on le voit la première fois.
Mais quel feutré chez lui.
Exactement, et protégé de l'extérieur, et c'est une des clés du personnage. Mais ouais, je veux pas trop en dire sur la fin, parce que c'est vraiment. Par contre.
Mais Philibert aussi, il y a une forme de volonté de rédemption aussi.
Ah bon. Peut-être.
Le livre commence par une faute, on peut expliquer le début du livre.
Oui, c'est vrai.
Il s'en veut énormément d'avoir été déterrer le corps d'une femme pour éventuellement l'autopsier.
En permanence, il se sent coupable de quelque chose, ça c'est certain. Et d'ailleurs, un peu dans Les Démons de Paris, c'est pareil, puisque le Saint-Joseph se sent coupable de la disparition de son ami du début à la fin. Mais. C'est vrai, je sais pas. Mais ce qui est amusant, enfin pour continuer ce que disait Cédric tout à l'heure, moi je pense que, en tout cas personnellement, quand j'écris un bouquin, c'est pour quelque part retrouver le plaisir d'en lire un, mais étaler sur un an et demi au lieu d'un mois ou deux semaines. Et que quand un lecteur s'identifie à des personnages, ce qui est vraiment. Ou se plonge dans l'histoire d'un personnage. Vu du côté de l'auteur, c'est la même chose mais pendant un an et demi. Et quelque part, je ne sais pas vous, mais moi quand j'écris un bouquin, je pense qu'avant tout c'est pour moi et c'est pour ce plaisir. C'est pour le plaisir d'être dans un livre, dans une histoire à côté de mes personnages pendant un an et demi. Et quand je me souviens, pour les deux bouquins, quand je relis les épreuves à la fin pour vérifier les fautes d'orthographe et la typo et ces choses-là, à chaque fois, je verse ma larme à la fin du bouquin. Alors j'ai un petit côté fleur bleue peut-être, je suis un fan de In the Mood for Love, mais, Mais c'est ça, quoi. Et je pense que si j'avais pas ça, je corrigerais le livre pour, jusqu'à l'obtenir.
Ben voilà, en tout cas, ces quatre auteurs qui vous font trembler, pour traduire enfin le mot thriller, vous font frissonner, et vous aimez ça, vous êtes vraiment pas raisonnable, franchement. Allez, on vous invite à aller les retrouver, peut-être continuer les discussions avec les uns ou les autres, et puis surtout à découvrir évidemment leurs livres et leurs ouvrages pour peut-être aussi mieux comprendre tout ce qui a pu être évoqué au cours de cette table ronde. Merci beaucoup et bonne soirée. Mais merci beaucoup.
Ouais, je suis tout seul.
J'ai l'impression d'être en pilote automatique.